ce jour-là, Maradona, on part en vacances ensemble, c'est tout. Bon, si c'est pas le cas, il faudra qu'on cherche une autre solution.
Vous savez d'ores et déjà combien vous allez le payer si vous parvenez à vos fins?
Bien sûr.
Vous pouvez me dire la somme?
Oui.
Combien?
20 millions par an.
20 millions par an.
Mais alors, c'est cadeau.
C'est pas beaucoup.
Mais c'est cadeau. Mais c'est strictement zéro, c'est rien. C'est beaucoup moins que quand vous donnez 50 000 à un joueur de Laval.
Marius Trésor quitte l'OM pour les Girondins de Bordeaux. Jean-Michel Larquet, Saint-Etienne pour le PSG. Laurent Blanc, Naples pour le Nîmes Olympique. Dans les années 80 et 90, nos étés étaient rythmés par les départs en vacances, les copains, nos amourettes, mais aussi les transferts dans notre division 1 chérie. Manu, Francky, Fabien Yolan, ami de 30 ans, vous parle de foot, de culture et de vintage. C'est le FC Vintage. Ce soir avec nous, numéro 10, brassard de capitaine, prédateur au pied. Hola, bon dia, Manel.
Bon dia tout le monde.
Tudo está bem?
Tudo bem.
Ça fait plaisir. Numéro 3, chaussettes baissées, crampons 18 sous ses World Cup cirés. Bonjour, Yolan.
Oh, buonasera a tutti.
Come va?
Ciao, tutti bene, e tu, Franky?
J'ai rien compris, mais ça va. Merci.
C'est multilangue.
Ouais, alors, ouais.
Ce soir, les amis, on a décidé de parler des transferts dans les années 80-90 dans le championnat de France. Et j'aimerais que, pour démarrer, vous me donniez un mot pour me dire ce que ça représentait pour vous.
Oh, une très très grande excitation.
Ah, moi, c'est les tableaux France Foot.
Ben, moi, c'était l'histoire.
Ah ouais, l'histoire. Mais l'histoire, pourquoi? Parce que là, je vois pas pourquoi tu nous parles d'histoire.
Ben, l'histoire, parce que l'évolution du football, et notamment des transferts, est intimement liée à l'évolution de la société.
Ouais.
Alors, je vais vous expliquer rapidement, hein. je vais pas vous faire un cours d'histoire.
Ouais, vaut mieux.
En 1932, le championnat de France se professionnalise. Ça veut dire que les joueurs deviennent professionnels et ont un salaire. Qui dit salaire, dit valeur. Ce qui a permis, par exemple, à un Raymond Kopa de partir au Real de Madrid pour une somme record à l'époque. En 1968, bah, vous le savez, il y a eu les mouvements sociaux en France. Et les footballeurs s'y mettent aussi et obtiennent notamment le contrat à temps. Ce qui fait qu'ils ne sont plus liés à vie à un club. Et ils reprennent la main sur leur carrière. Donc ça, c'est vraiment un événement capital dans l'histoire des transferts. Et en 1995, bah là, on le sait très bien, c'est l'arrêt Bosman, avec la règle des 8 plus 3 qui explose, puisque les joueurs ont la possibilité d'évoluer dans n'importe quel club en Europe. On a décidé ce soir de parler des transferts dans les années 80 et 90, parce que, pour tout dire, Yolan, c'était un championnat de stars.
Ouais, c'est un championnat de stars. Alors effectivement, j'ai regardé un petit peu, j'ai fouillé dans mes archives, et là je suis retombé sur des noms. Quand on pense que dans notre championnat, on a eu des joueurs comme Tarantini, Mila et Mlinarzic à Bastia, on a eu Kroll, Vanenburg, Gomanbik à Cannes, on a eu Abedi Pelé à Lille, on a eu Moravzik, Wolfhart à Saint-Etienne, Carrasco à Dibéjik, Bazdarevic à Sochaux, Zavarov à Nancy, je continue, hein, Azanovic, Bokandé à Metz, Julio César, José Luis Brown, Cabanias à Brest, Graham Ricks et Kenneth Anderson, à Caen. Bref, vous voyez, la liste n'est pas exhaustive, mais ces noms, ça a été des très très grands joueurs, et on a eu ces grands joueurs dans notre championnat. On a eu cette chance, nous, d'avoir tous ces grands joueurs qui ont évolué dans le championnat de France.
Et ces joueurs-là, comme ça, parce que je me souviens pas de tous, ils étaient au sommet de leur art au moment où ils sont venus dans notre championnat, ou ils étaient...
C'est une bonne question que tu poses, Manu, parce que c'est vrai que, par exemple, si on prend un Rudy Voller, qui était quand même champion du monde, il est arrivé, il était en fin de parcours. Il y a eu des joueurs qui sont arrivés en fin de parcours, mais des joueurs qu'on connaissait pas, je pense notamment à Georges Weah et Abedi Pelé, qui étaient de très très jeunes joueurs, et qui tout à coup ont complètement explosé à la face du monde, et sont devenus les stars que l'on connaît. Donc oui, il y a eu des grandes stars qui sont arrivées dans le championnat de France, mais le championnat de France a aussi façonné des grandes stars.
Ce que tu es en train de dire, c'est que le championnat de France était extrêmement attractif alors à l'époque.
Si tu veux, Francky, pour moi, je pense que le premier championnat, et personne ne me contredira, c'était le Calcio. Bon. Il y a le championnat anglais, mais le championnat anglais, tout le monde ne pouvait pas aller jouer dans le championnat d'Angleterre. Clairement, c'était un championnat qui était quand même très compliqué. On avait plutôt des joueurs scandinaves ou des joueurs de Grande-Bretagne qui venaient un petit peu mettre les coups d'épaule dans les surfaces de réparation.
Oui, les joueurs
Les
physiques.
joueurs très physiques. Le championnat d'Espagne n'était pas encore le championnat que l'on connaît aujourd'hui. Et le championnat de France, je dirais que si je devais le classer parmi les championnats, je le classerais à la cinquième position.
Cinquième position, c'est-à-dire que devant, tu mettrais qui?
Ouais, disons que devant, si je veux être tout à fait objectif, il y avait le Calcio, il y avait la Bundesliga, il y avait l'Espagne, et puis les Anglais étaient quand même un petit peu au-dessus malgré tout.
Non, non, bah moi après le côté attractif, moi je veux bien que ça soit attractif et qu'il soit le cinquième championnat, mais voilà, par rapport à un objectif qui était de gagner les Coupes d'Europe, ça s'est pas transformé grâce à ces transferts en tout cas.
Ouais, je suis d'accord. Après, je pense que on en reparlera peut-être un jour pour un futur podcast, que sais-je. Mais là, tu mets plutôt le doigt sur les paradigmes des clubs, c'est-à-dire que finalement, certains clubs n'avaient pas l'objectif d'aller gagner des Coupes d'Europe. Je me souviens que Safet Suzic disait, quand on a été champion en 86 et qu'on a réalisé la Coupe d'Europe l'année d'après, on y est allé en touriste et quasiment à chaque fois, tous les clubs allaient en touriste en Coupe d'Europe. Donc je pense que c'était plutôt la mentalité française des clubs français qui fait que on n'était pas bon en Coupe d'Europe et non pas, je dirais, la qualité malgré tout de notre championnat de France qui était, je pense, un très bon championnat.
Est-ce que c'était pas une question de transfert d'opportunités plutôt? C'est-à-dire qu'on était
C'est-à-dire...
sur, c'est-à-dire qu'on avait la règle des 8 plus 3. Donc ça, tous les clubs en Europe n'avaient la possibilité d'avoir que 3 joueurs étrangers sur le terrain. Et du coup, il y avait une espèce de répartition, si on peut dire ça comme ça, de joueurs dans différentes équipes, ce qui permettait à chaque équipe d'avoir un peu sa vedette ou son trio de vedettes.
Oui, tout à fait, mais justement, Francky, c'est là où il fallait pas se tromper pour les clubs. Aujourd'hui, on regarde, on voit des clubs français qui recrutent un petit peu à tout va, ça va dans tous les sens, ça recrute de tous les côtés. Mais là, vu que tu n'avais que 3 joueurs, t'avais vraiment intérêt de pas te tromper et de choisir correctement le joueur étranger qui allait être, on va dire,
Faire la diff.
le cake, oui, qui allait faire la différence. Merci, Manu.
Ça veut dire qu'il devait être supérieur aux joueurs locaux. C'est ça que tu entends?
Ou amener une valeur ajoutée, oui, supérieure aux joueurs locaux, certainement, en tout cas amener quelque chose de plus au sein du collectif.
Alors, moi, la période des transferts, c'était un grand moment d'engouement pour moi l'été. Je reconnais que je suivais beaucoup. Les transferts, que ce soit dans les journaux, sur le télétexte pour ceux qui ont connu, à la radio le soir. J'aimerais que vous m'expliquiez comment vous viviez
Bah,
ce moment.
moi c'était pareil. Je crois que c'est la seule période de l'année et celle du Ballon d'Or où j'achetais France Foot, où j'achetais la presse pour voir. Ouais, je regardais les tableaux, tout ce qui arrivait, les transferts qui pouvaient être intéressés, les possibles en gras déjà acquis. Enfin, donc moi c'était la seule période où j'achetais la presse écrite, où je m'intéressais un peu plus aussi à écouter quelques émissions à la radio, comme tu disais le soir, de manière à pouvoir être au courant des transferts le lendemain dans la cour d'école ou à l'entraînement, quoi.
Manu, est-ce que tu te souviens, par exemple, d'un feuilleton sur un transfert? C'est-à-dire quelque chose qui passionnait les gens, passionnait les foules, comme un feuilleton, comme une
Alors,
télé-novela.
un feuilleton, non, mais d'un transfert qui aurait effectivement, qui serait passé au journal, oui.
Ouais, et tu peux nous en dire un petit peu
Bah,
plus?
celui de Chalana quand il est arrivé à Bordeaux en 84, enfin juste après l'Euro 84, où effectivement, alors encore une fois, je ne sais pas si c'était le midi ou si c'était le soir, mais de voir l'info au journal télévisé que un joueur portugais arrivait à Bordeaux. Et donc voilà. Alors c'était pas un feuilleton parce que je sais pas si ça avait duré longtemps ou pas longtemps, mais j'ai le souvenir que c'était passé.
Oh, ça avait été quand même hyper
Oui, non,
médiatisé à
voilà,
l'époque, hein. Oui, ça c'est
j'ai
vrai.
pas la durée. Enfin, je suis pas capable de dire si ça avait duré longtemps, mais je revois effectivement dans le journal l'article du joueur portugais arrivant à Bordeaux, quoi.
Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en plus, Fernando Chalana, il arrive juste après un Euro 84 où il est. Oui, il fait partie des très 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 bons joueurs de cet Euro. Hein, il s'est énormément distingué. On se souvient notamment sur le but de Jordao, c'est lui qui fait le café crème à Jean-François Domergue. Et puis, il arrive quand même dans une équipe avec un milieu de terrain où on a, excusez-moi du peu, Tigana et Gyrès. Donc forcément, ça suscite un fantasme qui est assez fou dans nos têtes de jeunes supporters.
C'est là où je voulais, pour évoquer l'absolu même, enfin du transfert, c'est que le mec qui fait un super euro, il arrive dans une équipe qui n'est pas non plus une équipe de manche, et en fait on s'aperçoit qu'il ne s'impose pas.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est que je ne sais pas si son transfert a été un feuilleton, mais en tout cas, les quelques saisons qu'il a passées à Bordeaux, par contre, ça c'était un feuilleton avec son épouse.
Oh bah tu vas nous raconter,
ah bah son
Francky.
épouse, qui. Je pense qu'elle était une vraie chanteuse de fado, hein, pour le coup. Mais elle avait demandé au président Baez de pouvoir faire les voyages avec les joueurs dans le bus. Et elle surveillait tous les faits et gestes de son époux. Et il paraît que c'était une vraie. Une épouse très, très collante. On va dire ça comme ça.
Ouais, moi je pense, Francky, d'ailleurs, que ça a dû influer sur le début de saison raté de Chalana. Je pense que cette histoire-là avec sa femme, quelque part, ça a peut-être impacté. Moi, ce dont je me souviens, juste comme ça, c'est quand il marque ce pénalty contre Mietro Petrovsk. Excusez-moi, c'est un peu compliqué à prononcer. Et qu'il y a quasiment toute la foule qui lui saute dessus. C'est un truc de fou. Il marque le pénalty. Pénalty victorieux pour les Girondins de Bordeaux. C'est son seul fait d'armes, on va dire. Et c'est un peu ce qui a justifié son transfert.
Et toi, Yolan, justement, je te relance. Est-ce que tu as un feuilleton, toi?
Oh ben moi, c'est Cabanias, hein. Roberto Cabanias, ça me reste, hein.
Ouais, c'est assez extraordinaire.
C'est assez extraordinaire. On n'a jamais véritablement tout bien compris parce que ça a été tellement compliqué cette affaire. Mais on a vu que le président Ivinec avait vraiment, vraiment fait des pieds, des mains pour pouvoir avoir Roberto Cabanias. Et moi, je me souviens, on en parlait énormément, parce qu'on n'avait pas énormément de foot à la télé, hein, vous vous souvenez, mais on en parlait aux informations. Et je trouvais que c'était assez extraordinaire les efforts de ce président, Ivinec, qui a tout fait pour avoir ce joueur. D'ailleurs, Roberto Cabanias l'a bien rendu parce qu'il a été un joueur hyper marquant et ce qu'il a fait à Brest, c'était absolument énorme.
Ouais, c'est vrai que c'était un joueur extraordinaire qui a ensuite joué à Lyon, c'est ça?
Ouais, il a joué à Lyon. Alors, pour la petite anecdote, moi j'avais été très très déçu qu'il aille à Lyon. Pourquoi? Parce que j'adorais Cabanias et c'est une surprise pour personne. Je suis supporter de Saint-Étienne et le fait est que, en tout cas, si c'était une surprise pour certains, maintenant ça ne l'est plus. Et en fait, il signe là-bas et je ne sais pas pourquoi. Je me dis, mais j'aurais jamais vu Cabanias signer là-bas. Et il fait une interview sur France Foot. Et ce qui m'avait étonné, c'est que le journaliste lui pose la question, dit est-ce que Raymond Domenech est un bon entraîneur? Et Cabanias répond: ah oui, c'est un bon entraîneur. C'est un bon entraîneur d'athlétisme, quoi. Et il avait répété que bah il faisait de la piste et que derrière, au niveau football, il s'éclatait pas vraiment. Donc voilà, ça m'avait beaucoup marqué parce que il y a pas longtemps, je suis tombé aussi sur une interview du papa de Gonzalo Higuain qui tapait assez fort sur le Brest Armorique. Et aujourd'hui, on est plutôt dans le langage un peu langue de bois. Et à l'époque, on avait quand même des joueurs, quand ils n'étaient pas contents, ils le disaient, quoi.
Oui, c'est vrai. Alors, je reviens un instant sur le mot que vous m'avez donné tout à l'heure et je suis intrigué par Manu avec ton tableau de France Foot là. Est-ce que tu peux m'en dire
Oui,
quelques
bah
mots?
en fait, c'était un tableau où il y avait une colonne club, tous les clubs qui étaient en première division, et tu avais donc une deuxième colonne avec les départs et une colonne avec les arrivées. Et en gras, tu avais les départs qui étaient actés, voilà, tel joueur part, et entre parenthèses, le club. Et puis dans la colonne arrivée, pareil, si un joueur avait déjà signé dans ton club, il était en gras, et avec entre parenthèses, la provenance du club d'où il venait.
Pardon, c'est juste ce qui est très intéressant là-dessus, Manu, d'ailleurs, c'est qu'après la loi Bosman, quand les transferts se sont un peu plus complexifiés, elle devenait moins intéressante, cette grille, parce qu'on était plus sur des prêts et des retours de prêts, et tout à coup, ça nous faisait quand même nettement moins rêver, quoi.
Oui, après, c'est ce qui a été rajouté après, mais il y avait une période. Alors, ce qui était marrant, c'est que des fois, t'avais des noms, des trucs un peu improbables. Comme ça, j'ai pas de transfert qui me revient, mais t'avais
Jardel à l'OM.
voilà, des choses comme ça, et tu te dis, putain, c'était. On apprendra plus tard que c'était les agents qui faisaient croire que, à la presse, qu'ils
Mais
voulaient être transférés, mais.
ce qu'il faut préciser, c'est que à cette époque, qui n'est pas si lointaine, hein, c'était notre seul moyen de suivre l'évolution des effectifs durant
Ah bah oui.
l'été. Il n'y avait pas
Ah bah oui.
Internet, le
Ah
Minitel,
non. Ah
je ne
si
sais
si
même pas
si non
s'il
mais
y avait
Francky, tu
une
te
info
trompes là.
foot.
Il y avait le journal du Mytho Yo-Yo. C'est-à-dire que moi en fait je voyais gros comme une maison certains transferts. Et j'arrivais tu sais les mains dans les poches, tête de Dlinan. Tu sais où il va signer prochainement, Luis Fernandez? Non, bah je vais te le dire. Tends ton oreille, il n'y a que moi qui le sais parce que c'est son cousin du neveu de son oncle qui m'a dit que. Bref, c'est vrai que ça m'est arrivé de temps en temps aussi d'extrapoler sur les transferts parce que moi parfois j'avais des potes qui me disaient tiens il paraît que machin il va aller là quoi. Et c'était complètement improbable et ça se faisait pas. Et c'est ça qui était super aussi, c'est que oui, il y avait Internet, enfin il n'y avait pas Internet, mais il y avait justement ces rumeurs qui partaient un petit peu dans tous les sens, qui donnaient un peu du jus à toute cette période-là. C'est pour ça que c'était magique.
Alors moi, quand je regardais ce tableau, maintenant je m'en souviens, je me disais toujours, hop, alors, tel joueur, il est encore là, il vaut 2 millions, faut qu'il parte parce que ça va libérer 2 millions pour acheter un tel ou un tel. Enfin, je me faisais mes films, comme j'ai pu le faire, puisque j'ai beaucoup joué à PES, avec ma période de transfert et mes interviews d'après-match.
Ah bah
C'est
c'est
comme ça que je
carrément ouais,
vivais, moi,
c'est vrai
ce
que
tableau-là,
moi
effectivement.
j'étais un peu comme toi, c'est j'étais pressé souvent de terminer ma saison pour pouvoir voir un peu ce que j'avais en termes de dividendes et pouvoir me dire tiens je vais prendre lui, je vais prendre lui, c'était juste somptueux.
Alors toi, Yolande, tu nous as parlé de magie. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Oui, parce que pour moi, y avait trois moments forts que j'aimais beaucoup dans le foot. Le premier, c'est le Ballon d'Or. On a fait une émission dessus et c'est pour moi quelque chose qui m'a toujours fait rêver et j'assume complètement cela. Le deuxième, c'était le multiplex de fin de saison parce que je trouvais ça fascinant de me dire qu'on pouvait passer de la 13e place à la 19e place en deux temps, trois mouvements. Et puis le dernier, effectivement, c'est cette période des transferts parce que j'étais très excité à l'idée que cette période puisse arriver. Il y avait beaucoup d'impatience. Et tu sais, il y avait aussi cette odeur du papier, de la papeterie, là, quand on allait chercher le journal L'Équipe ou le 11 mondial,
Ou
ou
but,
rappelle-toi aussi, ou
but,
But,
but.
et 11 mondial, je me souviens à l'époque, tu avais toujours le joueur de début de saison, alors on avait eu Chalana, il y avait eu aussi Patrick Battiston par deux fois, avec le calendrier
Oui.
de début de saison dans lequel tu allais noter les résultats, ça c'était absolument
Hein, c'était
fantastique.
une belle période. En plus,
Ouais,
c'était les
c'était.
beaux jours en même temps, donc c'était nickel.
Ouais, ça occupait
Ouais,
ça
c'était.
occupait nos journées aussi, c'est vrai.
Ouais, mais alors à côté de ça, c'était aussi, on va dire, le seul truc qui nous liait au football, parce qu'il n'y avait plus de foot à ce moment-là. On était un peu en manque de football, et de fait, les transferts, c'était notre seul moyen d'aller chercher notre petite nourriture footballistique.
Ah oui, non,
C'est
mais
vrai.
c'est clair, c'est clair.
Alors, je vous propose, pardon, qu'on revienne un petit peu au transfert concret. Et en préparant l'émission, on s'est aperçu qu'il y avait des filières de transfert. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, nous expliquer ce que c'est?
Bah, des filières, moi plutôt que de parler de filières, je pense qu'il faut. On pourrait plutôt parler de tendance. C'est-à-dire que il y avait on va dire des pays ou des continents sur lesquels c'était intéressant d'aller capitaliser pour plusieurs raisons. Je pense que dans le championnat de France, dans les années 80, ça a déjà été initié dans les années 70, il y a eu beaucoup la filière de l'Est, avec un certain nombre de joueurs qui étaient issus de la Yougoslavie notamment. Je pense à Zanovic, à Mlinarić, à Susic, aux frères Vujovic, Drobnjak, et je peux j'en oublie encore certainement. Mais on a eu aussi des joueurs tchèques, des joueurs polonais. Il y a un joueur polonais qui illustre parfaitement cette filière, c'est Andrea Zarmak. Mais Zarmak, il explique à l'époque que il aurait, enfin c'est Giroud qui l'explique, il aurait bien aimé que Zarmak signe à Auxerre. Il va le rencontrer d'ailleurs à la Coupe du Monde 78 en Argentine, et Zarmak lui dit: moi je veux bien signer chez vous, mais le problème c'est que j'ai 28 ans et en Pologne on ne peut partir qu'à 30 ans. Et effectivement, Bourgoin à ce moment-là a l'idée avec Giroud de prendre un petit coucou là, un petit jet privé. Ils partent en Pologne, ils arrivent à atterrir par je ne sais quel moyen. Ils sont un petit peu embêtés et Bourgoin dit: c'est bon, j'ai des poulets j'ai des poulets dans la cargaison. Vous avez juste à les récupérer. Et puis ils ont réussi à signer le contrat avec Zarmak, et ça a été quelque chose d'absolument fabuleux. Et pourquoi je t'explique cette anecdote, Francky? Parce que je pense que Zarmak, qui fait une première saison absolument exceptionnelle, il est dans le prototype des joueurs de l'Est, on va dire des joueurs disciplinés, sérieux, capables de pouvoir être très efficients. Et je pense que justement, ça a aussi contribué à cette tendance des joueurs de l'Est.
Et aussi pas cher, à mon avis.
Et, et, pas, et pas cher. Alors, pas cher. D'une, parce que ils venaient des pays de l'Est, mais qu'en plus, souvent, ils avaient 30 ans. Donc, à 30 ans, c'est quand même compliqué de capitaliser sur un joueur en mettant des millions et des millions. Il y a un exemple qui est très intéressant comme ça, c'est aussi celui de Jacek Ziober. Alors,
Ah,
Jacek
mon
Ziober,
idole.
Ouais,
Mon idole.
le mien aussi, hein, d'ailleurs, on se souvient, coupe mulet, barbe.
Ah, le dribble qu'il fait où il s'arrête pour relâcher ses chaussures et il fait un crochet au gage exceptionnel.
Ah bah oui, mais à l'époque, quand Ziober arrive à Montpellier, c'est un joueur polonais, il est très peu connu, et Louis Nicolin dit: voilà, je viens de récupérer un joueur, on l'a payé tant, je crois qu'à l'époque c'était 1 million de francs, ce qui est absolument rien, pour l'époque bien sûr. Et de fait, on voit bien que cette filière de l'Est, c'est une filière qui a été très exploitée, mais en plus de ça, les joueurs de l'Est ont énormément réussi dans le championnat de France. Ils ont vraiment réussi à s'imposer et laisser une trace indélébile.
Est-ce que vous avez le souvenir d'autres filières,
Bon,
Manu,
après,
par
y avait,
exemple
après, c'était pas des, je sais pas si on peut dire des filières, mais tu avais peut-être aussi des clubs qui recrutaient ce qu'ils faisaient de mieux en France pour pouvoir constituer une équipe au sein de la première division. Donc après, je sais pas, ouais, si c'était je sais pas si c'était une filière de fait de recruter les meilleurs joueurs français ou voilà. Après il y avait aussi l'Afrique qui a bien alimenté notre championnat de première division.
Oh bah, l'Afrique, ça a été quasiment le continent frère, parce que c'est vrai qu'on avait aussi des pays francophones, des pays comme le Cameroun, des pays comme la Côte d'Ivoire, et on a là regorgé de joueurs hyper talentueux. Je pense au Sénégal aussi, les Bokandé, les Roger Mendy. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de Mambic, de Mila, de Joseph Antoine Bell. C'est vrai qu'on a eu énormément de joueurs africains et de très très bons joueurs africains, et c'est vrai que les joueurs africains se sont aussi hyper bien imposés dans notre championnat de France. Je pense à Jafet Endoram ou à Youssouf Fofana, les deux petits chouchous de Francky. C'est vrai que les joueurs africains ont aussi amené cette. On pense aussi à des joueurs comme Taribo West ou Ferdinand Colly, des joueurs qui derrière étaient très très costauds. On savait que on pouvait aller chercher ces joueurs parce que c'était des joueurs de talent. Et c'est vrai que avec ces filières, j'ai parlé tout à l'heure des filières de l'Est et des filières africaines. Justement, il y a une équipe qui s'est fait prendre un peu à ce propre piège, c'est l'équipe de la JOCR. Parce que la JOCR, Il faut se souvenir que
Vrai.
c'était un club de formation à la base. Ils ont énormément travaillé sur le volet formation. Et quand Giroud est parti, parce qu'il était un peu plus vieux, et puis que certainement que les choses avaient un peu évolué, on s'est dit, bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a Jean Fernandez qui est arrivé, et Jean Fernandez, lui, il a recruté à tout va. Et il a recruté des joueurs, beaucoup de joueurs de l'Est, des joueurs africains, et tout à coup, on s'est retrouvé avec une équipe qui était assez cosmopolite, un melting pot, une belle équipe, hein. Mais l'âme de la JECR s'est complètement écroulée. Et puis les années d'après ont montré que bah, l'équipe s'est désagrégée, elle est aujourd'hui en Ligue 2, elle essaye de sortir un peu la tête de l'eau. Donc on va dire que quelque part, oui, il y a des filières, mais dans ce cadre précis, le fait est d'aller faire du recrutement à tout prix a été un peu plus, je
Non, mais t'as
dirais,
peut-être aussi
préjudiciable
dans
par
un
rapport à la
objectif plus
formation.
mercantile que sportif, c'est-à-dire qu'on allait recruter pour promouvoir des joueurs, pour pouvoir les revendre et faire une plus-value.
Je sais pas, moi je serais plus dans une erreur stratégique qui était peut-être de se dire maintenant finalement la formation c'est
L'erreur, elle a
terminé.
été
Faut
justifiée puisqu'aujourd'hui ils sont en Ligue
et
2.
tu sais, oui, mais l'erreur a été justifiée. Mais après, moi je me mets aussi à la place du club lambda qui se dit tiens, je vais former mes joueurs. Et puis au bout de quelques temps, rappelez-vous des joueurs qui sont partis à 16-17 ans dans des clubs parce qu'ils ont été détectés par, bah, par des clubs anglais notamment qui avaient des gros moyens. Ils se les font souffler relativement jeunes, ça peut être vite fatigant.
Manu, tu parlais de filière française, mais est-ce qu'il y a un transfert qui t'a marqué justement d'un joueur qui a quitté un club français pour un autre?
Bah, moi oui, hein, qui m'a marqué, mais pas dans le bon sens, on va dire ça comme ça, c'est le fait que Giresse quitte Bordeaux pour aller à Marseille, Marseille
Alors
du.
là, pour le coup, je te coupe une seconde, c'est un vrai feuilleton.
Oh, alors c'est pour le coup c'était un feuilleton, mais oui voilà non moi je l'ai pas bien vécu parce que en 86 j'ai 11 ans et voilà moi c'est l'idole et tout Alain Giresse et de le voir partir à Marseille où il y a l'avènement de Bernard Tapie avec ses millions de francs à tout va et on commence à sentir le côté fric dans le football. Ouais, non, moi j'ai vraiment pas du tout aimé ce transfert purement français, ça c'est clair.
Mais il l'a pas aimé non
Oui,
plus
je
beaucoup
sais,
Alain Giresse parce qu'en
il a été
fait
un
il
peu
a
forcé, ça c'est.
oui il a été un peu forcé et puis surtout quand il a appris que enfin quand il a joué contre les Girondins de Bordeaux il a été hyper maltraité par les Girondins et il a pris des taquets de tous les côtés et il est allé voir Bernard Tapie en lui disant écoutez moi ma président je peux plus jouer les matchs face aux Girondins de Bordeaux et le président Tapie lui a dit ce je le comprends tout à
J'ai
fait.
appris récemment pourquoi Tapie est allé chercher Giresse au Girondin de Bordeaux.
C'était pour emmerder Claude
Alors,
Bess?
c'était pour ennuyer Claude Béz et Campora, qui étaient les deux boss du championnat de France. Et Bernard Tapie a dit, bon, il faut que je marque le coup pour montrer que c'est aujourd'hui moi le boss. Et est allé chercher Jean-Pierre Papin, qui devait signer à Monaco, et Alain Giresse. En fait, pour lui, c'était le joueur, effectivement, est exceptionnel, hein, il n'y a rien à dire. Mais l'objet principal, c'était de montrer, voilà, maintenant je suis dans la place, quoi. C'est
Oui,
assez savoureux, je
puis
trouve.
ouais,
Il y avait aussi ce
pardon.
côté
Vas-y, Manu.
où Bordeaux n'a pas montré non plus une grosse volonté de vraiment le garder, quoi. Alors après, je sais pas si les pourparlers avaient été déjà entamés, mais bon, voilà, moi je sais que j'ai relu récemment une interview de Giresse qui évoquait que quand Ferreri, Touré et puis Vercruis arrive, lui il le prend super mal quoi. Il le prend super mal parce qu'il dit bon bah ok d'accord il y a trois jeunes qui arrivent, j'ai bien compris que vous comptez plus sur moi quoi donc.
Ouais, puis quand même à l'époque, il faut aussi voir que à Marseille, il y a du beau monde, hein. Tapie ne prend pas que Papin et Giresse. Hein. Là, il est en train. On en avait déjà parlé lorsqu'on a fait l'émission sur Tapie, mais y a vraiment une super belle équipe qui est mise en place, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on parle des transferts. On a beaucoup parlé des joueurs étrangers, mais il y avait aussi à l'époque, comme les joueurs français ne partaient pas énormément à l'étranger, comme c'est le cas aujourd'hui où ils ont plus de facilité à partir. Il y avait aussi des transferts. Moi, je me rappelle. On prend l'exemple de William Ayache. Je prends un joueur comme Ayache qui a fait, vous voyez, Nantes, Marseille, Paris Saint-Germain, Nîmes, Montpellier, Cannes. Je sais pas, je les ai peut-être pas forcément dans l'ordre. Ou Yvon Leroux, qui a fait aussi beaucoup de clubs. Ou Gengini, qui a fait aussi beaucoup de clubs. Ou Yannick Stopira. C'est-à-dire que on avait la possibilité d'avoir des joueurs français qui, à un moment donné,
internationaux
qui plus est, qui partaient. Et ça, c'était chouette parce que on avait dans notre galerie comme ça des super joueurs qui partaient dans d'autres clubs. C'était savoureux. C'était savoureux. On parlait de Marseille. Gengini est allé à Marseille. Il est allé à Bordeaux. Il est allé à Monaco. Il est allé à Sochaux. Alors, évidemment, il a été même à Saint-Étienne. Enfin bon, voilà. Il y avait du mouvement et ça c'était chouette. Ça, tu as démarré en préambule, Francky, le podcast avec quelques exemples de transferts. Mais c'était ronflant à l'époque d'avoir des joueurs comme ça qui partaient dans d'autres clubs.
C'est marrant parce qu'en fait ça correspond à l'époque où on a le moins de joueurs français à l'étranger, en plus.
Oui, ah oui, mais c'est, oui pour ça. C'est pour ça, en fait. C'est pour ça,
pourtant,
après.
Pourtant, on rate voilà. Deux Coupes du Monde.
Exactement.
C'est comme quoi.
Ouais. Mais alors, après, ce qui est intéressant, c'est que on a eu aussi quelques joueurs qui sont partis à l'étranger, mais à l'époque, c'était assez rare. Hein. On a eu, bon, évidemment, Platini à la Juventus de Turin. Il y a eu Didier Six qui a joué à Aston Villa et Stuttgart. Et puis, on se souvient aussi de Galatasaray. Mais bon, il a fallu quand même attendre le début des années 90 avec notamment Papin au Milan AC, Paille à Porto, et puis Eric Cantona à Leeds et après à Manchester, pour véritablement démarrer, on va dire, une amorce de joueurs qui partent un peu à l'étranger.
Et juste une question, on a parlé de vedettes, qu'elles soient françaises ou étrangères, est-ce que vous avez le souvenir de joueurs qui étaient des vedettes, mais dans des clubs, on va dire, mineurs? Je pense à des Laval, à des Brest, à ce type de club, Toulon. Est-ce que vous avez de souvenirs de joueurs vraiment très forts qui évoluaient dans ces clubs?
Bah, moi je dirais oui, effectivement, tu parles de Toulon. Alors, tout de suite, l'association que je fais, c'est Leonardo Rodriguez.
Bernard Pardo.
Y a forcément Bernard Pardo, ouais. L'association que je pourrais faire aussi, c'est Graham Rix à Caen. Caen est pas forcément une très très grande équipe, même si bon ils ont eu aussi des recrues qui étaient très intéressantes quand ils se sont retrouvés avec Jesper Olsen et puis Denbourg, c'était quand même pas mal. Mais oui, je pense à Beto Marsico aussi à Toulouse. Bon, on sait que Beto Marsico c'est quelqu'un que j'aime bien. Je pense à Mostovoy à Strasbourg. Qui est un joueur assez fabuleux. Et puis pour moi, on va dire, s'il y a un joueur comme ça qui illustre vraiment la grâce et la magnificence dans un club qui est pas forcément une tête de gondole de club, c'est Hasanović à Metz, parce qu'il arrive, il est, oui. c'est absolument incroyable ce qu'il
c'est
fait.
C'est un phénomène.
Mais il a une frappe de balle incroyable, il met des coups francs. Et puis tout à l'heure je parlais de.
Il est élégant, et surtout élégant. Ouais, moi c'est le souvenir que j'en ai.
Ouais, et puis il y a aussi, excusez-moi du peu, il y a Enzo Schifo quoi. Enzo Schifo à Auxerre.
Donc, oui, il faut se rendre compte qu'à l'époque, Enzo Schifo, c'est comme si De Bruyne venait jouer à Angers aujourd'hui. Donc c'est assez exceptionnel. Manu, est-ce que toi, tu as des joueurs de. Ben, on va profiter de tes connexions portugaises. Est-ce qu'il y a des joueurs portugais qui t'ont marqué dans le championnat
de cette époque-là, je ne dirais pas qu'il y en ait des masses qui m'aient marqué. Moi, après, c'était plutôt la connexion Portugal-France qui fait que il y avait de l'intérêt, on va dire, puisque il y a eu une période où il y a eu il y a Valdo, Ricardo et Geraldão qui viennent signer au Paris Saint-Germain. Les deux premiers, Valdo et Ricardo, feront une superbe carrière au Paris Saint-Germain, mais l'autre, il est passé. Il est passé, il est passé inaperçu sur la saison qu'il a fait, parce qu'il était, il était à la cave, alors qu'il était annoncé comme un tireur de coup franc, enfin bref, un phénomène. Et en fait, le mec, il a pas du tout, il a pas du tout marché, quoi.
Non, mais moi je me souviens de Rui Barros surtout, qui était un lutin
Ben ouais,
phénoménal
mais
à
ça m'a
Monaco.
pas, enfin ouais, j'ai le souvenir de qu'il a joué à Monaco, mais tu vois, dans comme ça, j'ai même pas le souvenir comment il est arrivé. Enfin, il est arrivé de la Juve, mais il est pas dans les archives, quoi.
Ouais, moi je t'en donne deux des Portugais, Sobrinho
Ouais, mais qui
et
était à Paris
Placido.
ou au Matra, mais tu vois, c'est pareil, ils ont pas, enfin,
Exactement.
ils l'ont fait venir. Le premier, ils l'ont fait venir au Paris Saint-Germain. Ils l'ont fait venir justement parce que ils se sont dit, il y a une grosse communauté portugaise en région parisienne, ça va nous remplir le stade. Et ils ont fait venir effectivement des noms à la création du Paris Saint-Germain par rapport à ça, quoi.
Mais c'est super intéressant ce que tu dis, Manu. Ça veut dire que déjà dans les années 80-90, il y a des clubs qui avaient
Ah
des
ouais, non, si,
stratégies
ça a
par
été
rapport aux transferts
non,
qui
non, tout à
dépassaient
fait, ouais.
le côté
Tout à fait,
sportif.
non, il y a eu.
Mais Francky et Manu, d'ailleurs, si on veut creuser un peu plus loin, tout à l'heure vous parliez de filière, ou alors est-ce qu'on peut parler de mode, je veux dire, il y a eu énormément de Brésiliens qui ont signé, en tout cas au Paris
Bah,
Saint-Germain.
carrément.
C'était un peu le filon, c'était le filon un peu obligé, c'est-à-dire qu'on avait besoin d'aller rêver. Alors, on a eu des joueurs comme Vampeta qui nous ont. qui nous ont pas forcément fait super rêver. Il y a eu beaucoup de joueurs au Paris Saint. Il y a eu des loupés,
C'était
mais
un
il y a eu.
club, Paris, c'était le club où R9, après Eindhoven, voulait signer plus qu'au Barça.
Bon, ils ont quand même signé Ronaldo.
Non, non, mais effectivement, Paris attire beaucoup les Brésiliens, ça c'est clair.
Donc ça veut dire que Paris, l'OM, c'est Monaco, club de stars. Comment on pourrait définir les autres types de clubs dans leur politique de transfert?
Bah, je dirais qu'il y a eu Nantes, Auxerre et Sochaux qui ont été des clubs formateurs par excellence. Ils étaient reconnus pour ça. On a eu ensuite Cannes qui s'est aussi
Ah
pas mal
oui.
distingué dans sa formation. Évidemment, on citera comme ça les Vieira, Micou, Zidane, Zébina et Luxin, et j'en oublie d'autres. Et puis il y a eu aussi Lyon, qui a été énormément dans une politique de formation, puisque quand on prend l'effectif de 95-96 avec les Florian Maurice, les Djouli, les Laville, les Bardon, les Devaux, on se retrouve avec énormément de joueurs formés au club. Après, moi je dirais que il y a eu beaucoup de clubs qui ont été dans des parfois dans des choix un peu d'opportunisme. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'était Montpellier, qui essayait de temps en temps d'aller titiller le rêve. Et je trouvais que Nicolin, c'était le président qui avait le plus d'audace. Malheureusement, il n'a pas toujours été récompensé parce qu'il a essayé de faire des choix et ses choix ne se sont pas toujours avérés
Non, mais c'est là
payants,
où je reviens à
malheureusement.
ce que je disais tout à l'heure. C'est là tout l'art du transfert, c'est de miser sur quelqu'un et que ça se convertisse en réussite sportive. Parce que tu peux mettre beaucoup d'argent et tomber sur un tocard, ne pas mettre beaucoup d'argent et tomber sur une perle rare. C'est là l'art de définir le bon transfert, quoi.
Non, je suis pas d'accord avec toi parce que pour moi, oui, alors on va dire qu'en amont, qu'en aval, on dit ah oui, c'est un bon transfert. Mais quand Jacek Ziober est arrivé, tu pouvais pas dire que c'était un bon transfert. C'est pas forcément un joueur au départ où tu sais qui va tout casser. Moi, par exemple, pour moi, un bon transfert, c'est Enzo Francescoli au Matra Racing, c'est Dragan Stojkovic à Marseille. Tu vois, c'est des joueurs qui. C'est Jürgen Klinsmann à Monaco, parce que là, ça me met des étoiles dans les yeux. Mais c'est vrai que le fait est d'avoir des joueurs comme ça, je parlais de Zubair tout à l'heure, ça m'a pas mis des étoiles dans les yeux, quoi. Même si, effectivement, il fait des dribbles quand il fait ses
Alors toi, tu es
lacets.
plutôt dans le transfert romantique, on va dire, le transfert spectacle, alors que Manu serait plutôt dans le pragmatisme. C'est-à-dire que un bon transfert, eh ben, on voit le résultat à la fin de saison, c'est ça?
Ouais.
Ah, moi, je suis.
Ouais,
Ouais,
ouais.
moi, non, moi,
Bah, si, un bon transfert. Tu mises sur quelqu'un, tu récupères le gars qui t'a fait gagner des matchs. On peut dire qu'il est réussi. Après, voilà. Si le mec, par défaut, en fonction de son poste, c'est sûr que si le mec il sait pas dribbler mais qui défend bien, parce qu'il est défenseur, c'est plus pratique.
Mais Manu, tu l'as dit toi-même. Tu dis tel ou tel joueur, on l'a pris pour faire venir du monde. C'est ça aussi un transfert. Quand tu dis je fais venir Dragan Stojkovic, t'es certain que
Oui.
tu vas faire venir du monde. Tu vas amener une certaine appétence. Tu vas amener de l'engouement. Tu vas amener quelque
Oui, non, mais
chose.
ça vient compléter le package. Mais bien sûr que tu prends pas que un mec pour te faire gagner des matchs et qui te ramène personne au stade.
Non, j'entends bien, mais moi ce que je veux dire par là, c'est que si je donne ma définition des transferts, ma propre définition des transferts, c'est fais-moi rêver en amont, quoi. Quand tu regardais ton tableau des transferts, le fait est, moi je me souviens qu'à l'époque, ils avaient mis Matheus et Baggio pour l'OM, mais j'étais comme un fou, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, si Tapi il arrive à faire venir. D'ailleurs, je sais plus qui avait dit ça une fois, c'est dans le tableau de l'OM, il y a Matheus, Baggio et Bergkamp, et puis in fine, on prend Guivarch, quoi. Ça m'avait fait un peu sourire, mais c'est ça qui est génial, c'est ça qui fait rêver
Je pense
finalement.
que vous avez tous les deux raison quelque part.
Mais moi
Mais
plus.
bah toujours. Mais je vous donne juste un joueur, Vahid Halilhodžić. Il arrive à Nantes. Robert Budzinski, qui est directeur sportif, se fait démonter parce que personne ne comprend pourquoi il a pris ce joueur. Et finalement, en 83, il gagne le titre de champion de France. Vahid est le meilleur buteur. Et là, tout le monde dit, ah, c'est formidable ce que tu as fait,
T'as eu le nez
fallait,
creux.
fallait trouver ce joueur, etc. Voilà, donc on est exactement dans l'illustration de vos propos, les gars.
Bah oui, non, mais voilà, c'est pour ça que ça nous fait faire une émission, c'est que c'est vaste et chacun a son interprétation.
Alors, on va reprendre un peu l'idée des inconnus. Il y a les bons transferts et les mauvais transferts. Venons-en au flop. Alors, à votre avis, c'est quoi un transfert raté?
Bah moi je reste sur Gérald Daho au Paris Saint-Germain. Bah en fait, dans le sens où le gars est annoncé comme un super joueur qui vient de Porto, un super défenseur qui va faire la charnière avec Ricardo. Et puis en fait le mec il s'est déchiré quoi. Alors la raison exacte je sais pas, mais il est passé au travers. Et quand on voit ce qu'a fait Ricardo derrière et ce qu'a fait Valdo aussi, bah voilà, la réussite n'a pas été la même pour les trois quoi.
Alors, pour te contredire, Manu, et là je vais rejoindre Yolan, on est au début du mandat de Canal au PSG, et on nous vend Gérald Daho. C'est-à-dire que personne ne le connaît, en tout cas moi je ne le connaissais absolument pas, et on nous le vend comme le nouveau Moser, avec une
Tout à
frappe de
fait.
balle extraordinaire. Et effectivement, si on reprend un peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure en début d'émission, on avait très peu d'informations, très peu d'images du foot, en tout cas à l'étranger. Et donc on y croit, c'est le PSG, ils recrutent trois joueurs, donc Valdo, Ricardo, Geraldo, et on y croit. Sauf que c'est un flop énorme, puisqu'il n'a absolument pas le niveau pour jouer dans le championnat de France tout court. Donc voilà, je suis pas tout à fait d'accord quoi, avec toi.
Moi, c'est Kieft au Girondins de Bordeaux parce que c'est quand même un joueur qui a une belle carte de visite. C'est un buteur. Faut quand même savoir que Kieft, s'il n'est pas là, les Pays-Bas il gagne pas le championnat d'Europe. C'est lui qui marque contre l'Irlande à 10 minutes de la fin d'une tête décroisée. Et moi, j'avais vraiment pensé que ce garçon cartonnerait et c'est pas le cas. Et puis, il y avait aussi des joueurs qui venaient de Belgique, qui souvent avait des compteurs de buts qui étaient absolument fantastiques. Moi, je me souviens à Franck Farina Et Eddie Karnievich, j'ai jamais su comment nos copains, notre copain Daoud m'enverra certainement la bonne prononciation. Mais c'était des types à Anderlecht, enfin dans les championnats belges, qui empilaient énormément de buts. Et puis arrivé en France, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais on avait des joueurs, beaucoup de joueurs comme ça qui venaient. Il y a eu Danek qui est venu du Havre aussi, qui était un bon buteur. Il venait de l'Austria de Vienne, je crois. Et t'avais quelques joueurs comme ça qui étaient des flops, pas possible. Et puis évidemment, on en avait déjà parlé, c'était Foutré à Marseille. Donc on l'avait évoqué dans l'émission de l'OM.
Foutré et Martin Vazquez
Ouais.
aussi.
Et toi, Francky, t'as pensé à qui?
Moi, je n'étais pas supporter spécialement des Girondins de Bordeaux, mais je me souviens d'un flop qui a été assez retentissant, c'était Stanley Menzo.
Oh
Qu'on
non,
nous
t'es
vendait comme un... Ah
dur!
si, si, si. Ah non, je ne suis pas dur, qu'on nous vendait comme un
Il
gardien
paraît qu'à la buvette,
extraordinaire
il était très bon.
et qui est véritablement passé au travers. Et je me souviens très bien de m'être moqué plus d'une fois de Manu, qui était fan des Girondins. Et voilà, c'est le petit clin d'œil que je fais à Manu ce soir. Alors Yolan, toi, t'as pas réagi sur le transfert qui t'avait le
Ouais,
plus marqué?
d'ailleurs, je suis un petit peu triste qu'on ait oublié ce moment-là. Non, pour moi, indiscutablement, c'est Carlos Valderrama, pardon. C'est le transfert qui m'a le plus marqué. Je me souviens de cette affiche, enfin, ce France Foot où je le vois, où il met l'anti-Gullit. Je comprends pas. L'idée, je ne suis pas le Gullit blond, c'est ce qu'il va dire. Et je trouve que Montpellier est très audacieux avec ce transfert. Et tout à l'heure, on parlait des filières ou des tendances. Bah, c'était un peu la tendance justement des joueurs des pays d'Amérique du Sud. On a eu Buruchaga, Olartico-Echea, on a eu José Luis Brown, il y a eu tous ces Brésiliens,
Rúlio
Júlio
César.
César,
Rúlio César.
il y a eu Tapia aussi à Brest, à Auxerre plus tard on a eu le Chilien Reyes, c'était un peu plus tard. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette arrivée de Carlos Valderrama, elle a amené un vent de magie dans notre football, et c'était vraiment très agréable d'avoir ce joueur avec sa technique, même si moi je vous avouerai, allez, je vais vous faire une petite confidence, je pensais qu'il était plus fort que ça en fait. Je trouvais que c'était un très bon joueur, il était
Bon, arrête,
c'était un
tu
c'était un
rigoles, toi.
monstre, mais moi je pensais que c'était un dribbleur de fou avec une rapidité, tu sais, au départ. Et en fait je ne comprenais pas le football à l'époque, Francky, faut aussi se dire ça. Je suis jeune, je vois un type comme ça, j'ai l'impression qu'il avance pas. Et et il faut savoir que Aimé Jacquet ne le faisait pas jouer. Aimé Jacquet ne le faisait pas jouer. Et
Oui, c'est
d'ailleurs,
vrai.
ils sont en très mauvaise posture au moment où enfin, à un moment donné, et Jacquet est débarqué. C'est Mézy qui reprend le poste. Et à ce moment-là, les choses commencent à aller un peu mieux.
Alors moi, il y a un transfert qui m'a marqué. Alors comme vous le savez, dans ma famille, on avait plutôt le cœur rouge. C'est Kidia Touline à
Ah oui.
Toulouse. Kidia Touline, c'est le libéro
L'URSS.
de l'équipe de l'URSS à l'époque. C'est un très grand joueur. Il est considéré comme un des meilleurs libéros du monde. Et il est finaliste de l'Euro 88. Et je vois débarquer ce joueur à Toulouse. Ce qui me paraît complètement improbable. Alors, il y a toute une histoire. Hein. Là aussi, c'est aussi un feuilleton qu'on pourrait développer sur son arrivée. Ce qui m'a marqué, c'est que il est associé à l'histoire de l'URSS, puisque à l'époque, c'est Gorbatchev qui mène des grandes réformes dans le pays. Et on est sur plutôt de l'ouverture. Et c'est le premier joueur russe qui quitte l'URSS pour jouer à l'étranger. Et il avait fait, je me souviens très bien, le 13h. C'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Bon, il n'a pas eu le rendement espéré à Toulouse, mais en termes symboliques, c'était assez extraordinaire.
Ouais, c'est vrai que c'était, on s'en souvient. Puis il y a eu aussi d'autres joueurs russes. Bah, il y a eu Sacha Zavarov, pardon, qui est venu à Nancy aussi. Mais c'est vrai que Kidia Touline, c'était quelque chose. Il formait une charnière centrale avec Kuznetsov, qui était un joueur du Dynamo Kiev, qui était un super stopper. Et tous les deux, c'est vrai que avec Dassaïev derrière, c'était joli, quoi. C'était pas mal. C'était une belle
Oui.
défense. Ton idole, ton
Bien.
idole.
Eh bien, mon idole, Dassaïev, elle est toujours dans mon équipe type, quoi qu'il arrive. On arrive tranquillement à la fin de ce podcast. Est-ce que vous avez un petit mot pour conclure sur les transferts?
Moi, juste sur les transferts, j'inviterai les gens à lire le livre de Marc Roger, justement, Transfert, bourré d'anecdotes sur les transferts. Voilà. C'est un peu la culture aussi sur les CV Tech, donc allez-y.
Yolande?
Non, moi, j'étais en train de lire cet après-midi un article sur Susic qui disait qu'il avait failli signer à Marseille à l'époque où il avait 36 ans. Et en fait, c'est ça aussi, les transferts, c'est ce qui s'est fait, mais ce qui ne s'est pas réalisé aussi, pour des raisons qui nous échappent. Et c'est aussi toute la magie de ces transferts. C'est pour ça qu'on aime ça, c'est qu'on apprend plein de choses après. Et que cette période me manque énormément.
On arrive bientôt au mois de décembre.
Oui.
Le transfert, le mercato d'hiver.
Alors, on va bientôt se quitter. On va juste embrasser Fabien qui n'a pas pu se libérer pour être avec nous ce soir.
Bisous Fabien.
Ciao, ciao.
Et je crois que Yolan, tu voulais dire un petit mot ?
Oui, un petit mot, Francky, puisque... On a perdu Jean-Pierre Adams le 6 octobre. C'est une journée qui n'était pas une journée très drôle, puisque en plus ce jour-là, on a aussi perdu un monument français qui est Jean-Paul Belmondo. Et voilà, on pense forcément à sa famille, on pense à sa femme qui est originaire de Gien. Et on a tous été bercés par cette histoire qui était complètement improbable, que celle de ce grand joueur qui était Jean-Pierre Adams. Et je pense que tous les amoureux du football vintage sont tristes de sa disparition. Donc je voulais forcément lui rendre un petit hommage aujourd'hui.
Merci pour lui, Yolan. Eh bien moi, je vais conclure ce podcast. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous écouter, à échanger avec vous. Et puisque le FC Vintage, c'est foot, culture vintage, je vais terminer sur cette citation d'Albert Camus. Il n'y a pas d'endroit dans le monde où l'homme est plus heureux que dans un stade de football.
Bonsoir. Salut tout le monde.
Ciao, ciao.